8h18, retour sur France Culture. Vous avez entendu le journal d'Inter parce que oui, pendant le temps que durera la crise, eh bien, on soulage le travail des rédactions en mutualisant les journaux. Et à 8h18 sur France Culture, c'est le billet politique. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Les failles de l'Union européenne révélées par la crise du Covid-19.
Savez-vous vous laver les mains ? Je veux dire, savez-vous vous laver les mains soigneusement, bien comme il faut, en insistant entre les doigts, sur les poignets, sous les ongles. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours consulter la vidéo qu'a mise en ligne Ursula von der Leyen. Dans ce petit clip diffusé sur les réseaux sociaux, la présidente de la Commission européenne fait face à un robinet. Elle nous explique de manière très pédagogique comment faire mousser le savon pour un geste barrière optimal. Si l'on était provocateur, on pourrait voir dans cette vidéo un résumé de l'aspect décalé de l'action de l'Union européenne dans cette crise. Car qu'on soit partisan ou non de l'intégration européenne, il faut constater que ce sont bien les États qui donnent le tempo des réponses à la crise. Ce mardi, ce sont les ministres de l'économie des différents pays, on vient d'en parler, qui se réunissent pour discuter d'une réponse budgétaire commune. La décision de fermer les frontières extérieures, c'était aussi une décision des gouvernements. De même, ce sont les États entre eux qui ont négocié les transferts de patients, 130 Français hospitalisés par exemple en Allemagne en ce moment.
Mais sur l'aspect financier, l'Union européenne n'a pas été inactive face au coronavirus.
C'est vrai, elle a promis 37 milliards d'euros d'investissement, elle a proposé des prêts pour financer le chômage partiel et la Banque Centrale Européenne va soutenir les États en rachetant massivement de la dette. Oui, mais les initiatives économiques se font d'abord à l'échelle nationale et en ordre dispersé. C'est ainsi que l'Espagne compte instaurer un revenu universel. Ironie de l'histoire, cela est rendu possible précisément par une disparition momentanée de l'Union Européenne. Bruxelles a décidé de désactiver ses règles budgétaires, dont le déficit sous les 3%, une règle qui allait de toute façon devenir caduque, à l'évidence, devant les centaines de milliards mis sur la table par les États pour leur plan de relance. Mais vous voyez le symbole, la meilleure aide que puisse apporter l'Europe, c'est de se taire. Sa meilleure action, c'est une inaction. Certes, il ne faut pas faire porter à l'Union un chapeau plus large que le sien. Elle ne dispose pas de compétences directes en matière sanitaire. Mais prenez l'exemple des commandes de matériel et de masques. La Commission a tenté de mettre en place des achats groupés à répartir ensuite entre les pays. Eh bien, c'est largement un échec, malgré un effort d'accélération des procédures. Comme l'a constaté le Luxembourg, par exemple, l'échelon national est plus efficace et plus rapide parce que la multiplication des intermédiaires divise les chances de succès sur les marchés très tendus en ce moment. Résultat, les États continuent de faire leurs emplettes séparément.
Cela dit, il y a aussi un déficit de communication de l'Union européenne.
Oui, elle pêche parfois à faire connaître ses propres initiatives. Une source à Bruxelles rappelle que plusieurs tonnes de matériel ont été envoyées discrètement aux pays en souffrance, sans affichage, à l'inverse de la publicité déployée ces jours-ci, par exemple par le soft power chinois dans l'assistance à des pays tiers. Il faudrait frapper les cœurs, mettre des drapeaux européens sur les avions qui livrent du matériel, propose le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, chez nos confrères de la radio-télévision suisse. Mais même dans leur champ pur de compétences, les institutions européennes semblent peiner à prouver leur implication. Prenons le respect du droit européen et des libertés fondamentales. Le dirigeant de la Hongrie, Viktor Orban, peut s'attribuer les pleins pouvoirs avec fracas, un fracas qui contraste avec le silence absolu de Bruxelles dans cette période. Les périodes de crise, sont comme celles que nous vivons, sont riches d'enseignements. Elles permettent de voir si le mécano des institutions est bien ajusté, de repérer les doublons, les assemblages solides et les pièces inutiles. Et bien dans cet affolement général, les institutions européennes semblent être au milieu du guet. Pour leur dire vite, elles sont trop grosses pour ne pas être encombrantes, mais trop maigres pour ne pas être impuissantes. Il y a urgence dans les prochains mois à clarifier les objectifs du projet européen. Soit c'est un grand projet supranational doté d'une puissance politique et d'un budget qui coordonne efficacement une réponse européenne simultanée, soit c'est une simple enceinte de coopération entre les nations souveraines qui se contentent en gros de fournir un secrétariat, des micros et des les interprètes, mais on ne peut pas rester à mi-chemin au risque de cumuler les défauts de ces deux visions. Ces contradictions ne sont pas nouvelles, évidemment, elles sont même l'essence de la construction européenne, mais les semaines qui viennent ne permettront pas d'organisation brouillonne et éclatée. Les plans de relance économique doivent être simultanés pour susciter un rebond de croissance. Les plans de déconfinement doivent être coordonnés pour empêcher un rebond de l'épidémie. Les crises sont souvent des périodes de refondation. Puissent celles-ci permettre d'offrir un vrai dessein à l'Union européenne, apporter la preuve de son efficacité, de son utilité à ceux qui croient en elle, faute de quoi ce sont les démagogues et les sceptiques qui triompheront, qui se laveront les mains de l'idée européenne, qui s'en laveront les mains, oui, mais soigneusement.
Merci beaucoup Frédéric Saïs pour ce billet politique que l'on retrouve sur le site de France Culture. Vous avez parlé du soft power chinois, de la manière dont la Chine influe sur la crise en cours. Eh bien, c'est précisément de cela que nous allons parler dans quelques instants. Il est 8h23 sur France Culture.